Oui.
À la une, cette saisie record de drogue, et c'est une première d'armes à feu. Et justement, le président du pays voudrait pouvoir dresser les chiens détecteurs d'ail au Fénois. On finira avec du sport, on connaît la liste des disciplines pour Tahiti 2027. Le journal sur Radio Etienne FM est présenté par Lucie Abreu. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
On commence avec cette saisie record de drogue et c'est une première, il y avait également des armes à feu.
Oui, c'est le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau lui-même qui en a fait l'annonce dans le week-end. 180 kilos d'ice, 900 kilos de cocaïne sur un voilier à Nukuhiva. Ça c'est la saisie des douanes le 14 juillet, mais une fois à Tahiti, après une fouille plus approfondie, d'autres drogues ont été trouvées et pour la première fois des armes. 11 Glock, des armes de poing professionnelles professionnels et 24 chargeurs. La procureure de la République a papété, a ensuite apporté des précisions. Ce sont donc en tout 230 kilos d'ice et 1 tonne 6 de cocaïne qui ont été trouvés. C'est la plus importante saisie de produits stupéfiants à ce jour sur le territoire polynésien, a expliqué Solène Bellawar. Et c'est aussi la première fois que les autorités découvraient des armes dans un navire de convoyage et qu'elles interceptaient de l'ice destiné à un marché étranger. De quoi soulever beaucoup de questions sur l'évolution des routes de la drogue dans le Pacifique et sur la nature et l'organisation des réseaux de trafiquants. Les trois membres d'équipage hollandais et allemand qui comptaient mettre le cap sur les Tonga ont été mis en examen et placés en détention provisoire.
Et Moïte Brodersson s'inquiète. Pour lui, le Fénois manque de chiens détecteurs d'ice.
Et il aimerait donc que chaque commune puisse avoir au moins un ou deux chiens chercheurs d'ice. Pour le président du pays, il y a des communes plutôt chic que d'autres. Il faudrait donc commencer par celles où c'est urgent. Certaines ont déjà leur brigade de cynophiles comme Papeete et bientôt Bora Bora aussi, mais pour d'autres, ça reste trop cher car il faut faire venir ces chiens, généralement de Nouvelle-Zélande. Alors pourquoi pas ne pas avoir un centre de dressage ici même?
Nous avons pris la tâche de la centrale canine de Polynésie qui nous a démontré leur capacité finalement à faire ces dressages. Ils l'avaient déjà fait, ils avaient fait une expérimentation, mais qui n'avait pas, on va dire, prospéré dans le temps pour des raisons administratives, puisqu'il ne suffit pas de savoir dresser des chiens. Il faut ensuite qu'ils puissent être certifiés pour que les saisies et les opérations qui sont faites avec ces chiens puissent être utilisées en justice.
L'association canine territoriale avait assuré que la Polynésie disposait du cheptel et des compétences humaines suffisantes et le gouvernement se dit prêt à soutenir financièrement le développement d'une filière de dressage locale et ainsi équiper les moutoïs de tout le pays. Le président du pays souhaite avoir de l'aide de l'État pour obtenir les agréments nécessaires.
Je ne vois pas de réel obstacle en fait à la réalisation d'un tel projet. Ça suppose évidemment des crédits, mais vous savez, on a inscrit un certain nombre de crédits déjà en 2025. On va en réinscrire pour le BP 2026 pour cette cause nationale que nous avons décrétée, donc de lutter contre l'ICE.
Lors du premier collectif budgétaire de 2025, 250 millions de francs avaient été alloués à des programmes de prévention, de lutte contre les addictions qui relèvent toutes de la compétence du pays. Il s'agit aussi de dresser les chiens pour d'autres détections comme celle de rats noirs pour protéger les écosystèmes des îles et même de certaines maladies comme le cancer du sein où des études ont montré que ça fonctionnait.
Vous écoutez le journal de la rédaction, il est 7h03 et Moïte Brodersson, que vous venez d'entendre, a été joint par téléphone depuis les Cooks.
Ah oui, où il a atterri hier, il fait partie des nombreux dignitaires étrangers invités aux célébrations des 60 ans de la constitution des Cooks. Le 4 août 1965, l'archipel passait du statut de territoire intégré de la Nouvelle-Zélande à celui d'État souverain en libre association avec Aotearoa. Le premier ministre Mark Brown a invité pas moins de 37 représentants de pays étrangers à participer aux célébrations, dont le président polynésien Moïte Brodersson, au programme des cérémonies officielles, des rencontres, mais aussi une signature.
Dès mon arrivée, nous avons tenu une réunion donc, avec le premier ministre des Cooks, qui avait également présenté l'ambassadrice de France aux îles Cook, l'ensemble des services concernés pour la signature donc, d'un accord sur le service aérien. C'est une première, puisque ça fait usage des articles 38 et 39 du statut. J'ai eu une délégation de pouvoir donc de la part du ministre des Affaires étrangères pour signer en tant que président de la Polynésie cet accord.
Et effectivement, les articles 38 et 39 du statut d'autonomie prévoient la possibilité pour le président de négocier des accords internationaux. Ces accords doivent ensuite être soumis à Tarahoy et ratifiés côté État comme n'importe quel traité. Et cet Air Service Agreement va permettre aux deux pays d'étendre leur accès à d'autres destinations. Les Cooks, longtemps tournés exclusivement vers l'Ouest pour leur connexion internationale, utilisent désormais Tahiti pour atteindre le marché américain et du côté côté du Fénois. On s'intéresse aussi aux connexions aériennes des Cooks pour le développement touristique.
Vous le savez, il y a des circuits touristiques avec des gens qui viennent sur Tahiti, qui poursuivent vers les Cooks. Et ensuite, à l'inverse, vous avez des gens, puisque les Cooks sont mieux reliés que nous à l'Australie, par exemple, qui peuvent venir d'Australie aux îles Cook et ensuite faire un leg de plus sur la Polynésie.
Formaliser les liaisons aériennes entre les deux pays, mais aussi renforcer la coopération et ouvrir de nouvelles opportunités pour toutes sortes d'échanges commerciaux, économiques et peut-être aussi faire renaître la fameuse route du corail qui, dans les années 50, reliait Fidji, Tonga, Samoa, les Cooks et Tahiti.
Justice à présent avec le parquet qui veut mettre Oscar Temaru en examen.
Pour ses propos tenus en 2023 lors d'une conférence débat de la Journée des Nations Unies à l'Assemblée, Oscar Temaru avait parlé de l'invasion de la Polynésie en décrivant un défilé de métropolitains dans une salle d'attente médicale où il s'était senti étranger. C'est un courrier de signalement d'Edouard Fritsch qui avait attiré l'attention du parquet. Un courrier dans lequel il dénonçait aussi les propos du ministre de l'Éducation, Roni Teriipaia, et de l'élu Tavini Mitematapati. Ils avaient d'ailleurs tous deux été mis en examen, mais pas Oscar Temaru. Les juges d'instruction avaient choisi de placer le leader indépendantiste sous le statut de témoin assisté, mais le parquet a contesté cette décision, nous apprend Tahiti Info, et c'est la chambre de l'instruction qui devra trancher.
À 7h06, ça y est, on connaît les sports qui seront au programme de Tahiti 2027.
À chaque édition des Jeux des Pacifiques, son menu sportif, celui de Tahiti 2027, était discuté depuis plusieurs années. De grands arbitrages avaient ensuite été faits par le Pacific Games Council en 2023 à Honiara, au Salomon. Mais la liste définitive n'a été adoptée en Assemblée Générale de l'organisation régionale que début juillet. Le comité d'organisation locale des Jeux vient de la rendre officielle avec 17 sports obligatoires, mais aussi une liste de 7 sports optionnels et il y a des nouveautés, Charles Irénée.
Oui, en matière de sports optionnels, les organisateurs locaux proposent, mais c'est bien le Pacific Games Council qui dispose. Le handball, dans lequel Tahiti avait une bonne chance de médaille d'or, a par exemple été retoqué, comme le netball, sport féminin proche du basket qui faisait partie des dernières éditions. En revanche, Tahiti 2027 accueillera du squash, du badminton et du tir sportif, des disciplines qui n'avaient plus vu les Jeux depuis 2019. Il faut remonter plus loin à 2011 pour retrouver le surf qui sera bien au programme, cette fois en version short et longboard. Le cyclisme fait aussi son grand retour. Il avait été privé de jeux depuis 1995. Il se courra au Fénois sur route, mais aussi en VTT. C'est une première aux Jeux du Pacifique. Au total, ce sont 24 sports qui sont au programme pour quelques 329 épreuves et 4500 athlètes.
Et on le disait, parmi ces 24 sports, il y a beaucoup de réguliers. Athlétisme, basket, golf, voile, va'a sont là chaque année, comme le foot, le rugby à 7, la natation ou le taekwondo. Mais même parmi ces sports obligatoires, il peut y avoir de petites variations, Charlie.
Oui, le public pourra par exemple assister en 2027 à un marathon, le premier des Jeux du Pacifique depuis une quinzaine d'années. Un bon souvenir pour la sélection tahitienne puisque sa dernière édition, c'était George Richmond qui l'avait remporté à Nouméa. Parmi les originalités du programme, on peut aussi citer la lutte qui va s'exporter comme le volley en version beach en plus des compétitions en salle. Le conseil régional a aussi validé deux disciplines qui accueilleront des épreuves handisport, l'athlétisme avec ses courses en fauteuil et des lancers adaptés, et le tennis de table, grande chance de médaille tahitienne. Les organisateurs veulent aussi voir figurer au programme le parava, mais pour l'instant ça n'est pas validé. Une nouvelle assemblée générale régionale se penchera sur la question, ce sera l'année prochaine à Tahiti.
Et voilà, et s'il y a des nouveautés au programme, il y a aussi des absents. Le bodybuilding, le karaté, le hockey sur gazon ne seront plus de la partie à Tahiti, et les Jeux, je vous le rappelle, c'est dans exactement 2 ans.
Et on parle de surf, Lucie, pour terminer, avec cette belle place de Tia Zebrowski.
La surfeuse de 14 ans s'est hissée en finale de l'US Open. La 3e étape des Challenger Series en Californie s'est terminée hier, après avoir écarté plusieurs grands nom du circuit. Elle n'est pas passée loin de la victoire. Tia Zebrowski, qui, il faut le rappeler, est la plus jeune qualifiée de l'histoire sur les Challenger Series. La plus jeune, et elle prend la tête du classement. Elle était au micro de la WSL, à qui elle a répondu en anglais.
C'est sûr que je voulais faire mieux parce que j'avais déjà fait 2e l'année dernière sur ce circuit à Ericeira, mais je suis quand même super contente de bien commencer cette saison et j'espère continuer. Mon but cette année, c'est toujours de me qualifier pour le Championship Tour et j'espère que je vais rester dans le top 5 des Challenger Series pour y arriver et réaliser mon rêve.
Et cet US Open a aussi été l'occasion pour Vahine Fierro de se remettre à l'eau. On n'avait plus vu la surfeuse de Vahine en compétition depuis le cut de mi-saison à la mi-mai. Elle s'est arrêtée en quart de finale face à la costaricaine Brisa Hennessy, une rivale régulière sur le circuit. Chiara Gold était aussi en compétition, mais elle a été sortie dès son premier hit. Et quant à Kaoli Vast, il a buté sur le deuxième tour. Il perd des places au classement. Le champion olympique est maintenant 12e des Challenger Series. Mais pour Vahine Fierro, Quintero et Kaoli Vast. Ce sont d'autres vagues qui arrivent, celle de Teahupo. Avec Kelia Galina, Mihimana Brai et Teiva Tairoe, ils seront sur la Tahiti Pro, dont la waiting period commence jeudi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 7h30 pour la revue de presse.
Merci beaucoup Lucie, à tout à l'heure à 7h30.